Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 15 janvier 2025. Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ici aux États-Unis, Marco Rubio, le candidat choisi par le président élu pour le poste de secrétaire d'État devant le Congrès aujourd'hui pour une audience de confirmation au Sénat. En Corée du Sud, les autorités ont arrêté Yoon Suk-yeol, le président déchu. Incendie à Los Angeles, au moins 25 morts alors que de nouveaux vents violents menacent.
Il y a des gens qui profitent, you know, pour rentrer dans la maison des autres et voler. Il y a des gens même qui se déguisent en sorte de sapeurs-pompiers pour voler et tout quoi.
Témoignage d'un habitant de Los Angeles à suivre dans la partie magazine. Au Mozambique, Daniel Chapo, du parti au pouvoir, a prêté serment en tant que président après des mois de manifestations contre sa victoire contestée aux élections. En Libye, l'ONU réclame une enquête immédiate sur des actes de torture dans la prison de Canada située dans l'est du pays. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Les négociateurs réunis au Qatar ont obtenu aujourd'hui un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas après 15 mois de conflits destructeurs dans le territoire palestinien, a déclaré un responsable informé des discussions. Cet accord prévoit une trêve initiale de 6 semaines ainsi que la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, le retrait progressif des troupes israéliennes du territoire et la fourniture d'une aide humanitaire à l'enclave côtière. Cela fait des mois que les médiateurs égyptiens et qataris, avec le soutien des États-Unis, s'efforcent de parvenir à cet arrangement dont les grandes lignes ont été dévoilées l'été dernier. Ici aux États-Unis, les auditions de confirmation continuent ce mercredi au Sénat. Dès le début de l'audition, Marco Rubio, choisi par Donald Trump pour devenir le chef de la diplomatie américaine, les discussions de la commission se sont concentrées sur la Chine. Eric Manirakiza.
Devant la commission des affaires étrangères, Marco Rubio a affirmé lors de ses propos liminaires que l'ordre mondial d'après-guerre froide était non seulement obsolète, mais qu'il était devenu désormais une arme utilisée contre les États-Unis. L'actuel sénateur de Floride a également affirmé que la Chine avait triché en vue d'accéder au statut de superpuissance mondiale. Marco Rubio a connu une audition moins agitée que celle de son collègue choisi pour devenir ministre de la Défense, Pete Hegseth, survenu hier mardi. D'autres auditions que celle de Marco Rubio ont lieu ce mercredi au Sénat, notamment celle de Pam Bondi, choisie par Donald Trump pour prendre la tête du ministère de la Justice. John Ratcliffe, potentiel prochain chef de la CIA, sera également entendu, tout comme Chris Wright, pour devenir ministre de l'Énergie. Aux États-Unis, la Constitution exige que les nominations de ministres et autres hauts responsables soient confirmées par un vote au Sénat.
En Corée du Sud, le président suspendu, Yoon Suk-yeol, a été arrêté ce mercredi à Séoul après une première tentative d'arrestation qui avait tourné au fiasco début janvier. Cette mesure sans précédent est à l'image de la crise politique provoquée par sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Yakuba Ouedraogo.
De nombreux agents du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités et de la police se sont présentés avant l'aube à la résidence où le président suspendu s'était retranché depuis des semaines à Séoul. Entrés dans son domicile en passant par-dessus le mur avec des échelles, ils ont annoncé avoir appréhendé Yoon Suk-yeol. Il a ensuite été conduit au siège du bureau d'enquête où il est en garde à vue. « J'ai décidé de répondre au bureau d'enquête sur la corruption », a annoncé Yoon dans un message vidéo, ajoutant qu'il ne reconnaissait pas la légalité de l'enquête, mais qu'il s'y soumettait pour éviter toute effusion de sang malheureuse. Suspendu par les députés et visé par une enquête pour rébellion, Yoon Suk-yeol avait jusqu'ici refusé de répondre aux convocations. Le président suspendu est dans la tourmente pour avoir instauré brièvement la loi martiale le 3 décembre. Il est suspendu depuis l'adoption le 14 décembre d'une motion de destitution à l'Assemblée nationale. Hier, la Cour constitutionnelle a lancé son procès en destitution. La deuxième audience est prévue demain jeudi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, le président élu du Mozambique, Daniel Chapo, a été investi aujourd'hui dans une capitale sous haute surveillance après une contestation meurtrière des résultats électoraux. Il a promis de lutter contre la corruption et de bâtir un gouvernement plus transparent et efficace. Nani Talani.
Sur place de l'indépendance de Maputo, surveillé par hélicoptères et agents des forces de sécurité, Daniel Chapo, 48 ans, à la tête du parti au pouvoir depuis un demi-siècle, a juré de remplir fidèlement la fonction de président de la République pour les 5 prochaines années. Daniel Chapo a livré un discours de rupture promettant la fin de la corruption, de la désorganisation et du manque de transparence de l'État.
Je suis venu aujourd'hui parler des changements importants qui transformeront le fonctionnement de notre gouvernement, en plaçant le peuple au centre de toutes les décisions. Nous allons ajuster les voiles de notre bateau pour qu'il navigue plus efficacement, avec moins de gaspillage et surtout avec plus d'attention et de soins pour chaque Mozambicain. C'est pourquoi nous allons avoir un gouvernement plus efficace. Tout d'abord, nous allons réduire la taille du gouvernement en commençant par la réduction du nombre de ministères.
Monsieur Chapo a fait observer une minute de silence en mémoire des 120 morts causés par le cyclone Chido et ceux qui, je cite, tout au long de cette période ont perdu la vie, ont été blessés ou ont subi des pertes irréparables.
En parallèle de cette cérémonie, 7 personnes ont été tuées dans des manifestations annoncées l'ONG locale. Plataforma décidée qui a recensé ces décès dans la capitale Maputo et dans le nord à Nampula. Au Comores, large victoire du parti présidentiel aux législatives. Le parti du président Assoumani Azali conserve une majorité écrasante à l'Assemblée nationale avec 28 des 33 sièges. Remporté dès le premier tour selon la commission électorale. La convention pour le renouveau des Comores domine également les gouvernorats des 3 îles de l'archipel, la Grande Comore en juin et Moueli. Le scrutin boycotté par une grande partie de l'opposition a été dénoncé par l'opposition unie des Comores comme une mascarade électorale. Le taux de participation n'a pas été communiqué. L'ONU se dit alarmée par des vidéos d'actes de torture dans une prison de Libye. La mission onusienne dans le pays demande des enquêtes immédiates sur ce qu'elle considère comme des violations des droits humains. Alexandre Nolognon.
La mission d'appui des Nations Unies en Libye se dit alarmée d'images choquantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Elle montre de nombreux détenus, des Libyens et des étrangers, soumis à des passages à tabac violents, puis contraints à adopter des positions pénibles par des gardes en uniforme dans le centre de détention de Kernada, dans l'est de la Libye. Les images, non authentifiées et non datées, montrent des hommes en sous-vêtements, frappés avec des bâtons ou à coups de pied. La Manul dit continuer à vérifier les circonstances de ces actes qu'elle condamne fermement car ils constituent selon elle une violation grave du droit international. Par ailleurs, la mission onusienne exige une enquête immédiate et transparente et que les auteurs soient traduits en justice. Les organisations internationales des droits humains dénoncent régulièrement des agissements hors la loi et de la torture dans les centres de détention officiels à travers la Libye.
Dans l'est de la RDC, 3 ressortissants chinois arrêtés en possession de lingots d'or et d'importantes sommes en liquide ont été condamnés à 7 ans de prison ferme pour achat illicite et détention illégale de minerais. La décision a été rendue tard mardi par le tribunal de Bukavu, capitale de la province, au rivière du Sud Kivu. Au Kenya, le ministre des Services publics et du développement des ressources humaines accuse les services de renseignement d'avoir enlevé son fils en juin dernier, ajoutant avoir dû appeler le président William Ruto pour le faire libérer dans une déposition transmise à la presse mercredi. Cette dénonciation intervient alors que de plus en plus de voix dans ce pays d'Afrique de l'Est accusent les autorités d'avoir multiplié les enlèvements et arrestations extrajudiciaires, voire des meurtres d'opposants depuis les manifestations antigouvernementales de l'été dernier, durement réprimées. Et puis en Afrique du Sud, le décompte macabre se poursuit au-dessus d'un puits d'or désaffecté avec 78 corps de mineurs clandestins extraits depuis le début de la semaine, a annoncé ce mercredi la police qui cerne le site depuis des mois pour déloger ces travailleurs illégaux. Au total, 216 sont sortis vivants de ce puits profond de 2,6 km, abritant une sorte de ville souterraine pour travailleurs de la mine. L'opération de secours doit durer 10 jours en tout pour extraire du sous-sol ces amas Azama, comme sont appelés en Afrique du Sud les mineurs clandestins. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Rwanda a annoncé mercredi la découverte de pétrole dans le lac Kivu, à la frontière avec la RDC, avec la confirmation de 13 réservoirs d'hydrocarbures. Francis Kamanzi, DG de l'Office rwandais des mines, a exprimé sa certitude de trouver d'autres réserves en s'appuyant sur les découvertes importantes réalisées par ses voisins, l'Ouganda et le Congo-Kinshasa, dans la région des Grands Lacs. Kigali mène des tests et des explorations dans le lac Kivu depuis plus de 10 ans. Le Mali veut produire 640 000 tonnes de coton-graines pour la saison 2025-2026 sous réserve de bonnes conditions climatiques et d'une gestion efficace des parasites, selon Mamadou Moustapha Diarra, directeur de la société cotonnière publique CMDT. Bamako avait initialement prévu une production de 765 000 tonnes en 2024-2025, mais le ministère de l'Agriculture a averti que cette prévision ne serait pas atteinte compte tenu des dommages causés par les inondations. Pour terminer, le taux d'inflation du Nigeria a augmenté pour le 4e mois consécutif en décembre, passant de 34,60% en novembre à 34,80% selon l'agence des statistiques. La hausse était due à une augmentation de la demande associée à la période des fêtes.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La CAF procède aujourd'hui au tirage au sort du CHAN à Nairobi.
Oui, cette édition qui réunira 19 équipes participantes comprend 4 groupes. Une poule classique composée de 4 équipes et 3 poules qui opposeront 5 équipes. La CAF a annoncé hier le report du tournoi août prochain. Le CHAN Kenya-Tanzanie-Ouganda 2024 était prévu du 1er au 28 février de cette année. L'instance dirigeante du foot africain soutient que des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, avec la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations. Cependant, ces experts ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN.
Parlons à présent du Rallye Dakar. Roma gagne la 10e étape en auto, mais la Tegane repasse en tête.
Le pilote espagnol Nani Roma a remporté en auto la 10e étape du Rallye Dakar 2025 qui a vu le Sud-Africain Hernán Letagán repasser en tête du classement général. La Ford Raptor de l'Espagnol de 52 a conclu la spéciale de 120 km dans les dunes autour de Chubayata en 2h06:34, sa première victoire d'étape sur le célèbre Rallye Raid depuis 2015, profitant d'un ensablement qui a fait perdre de précieuses minutes à son concurrent saoudien Yazid Al-Raji. Le Sud-Africain Hernán Letagán lui a repris la tête du classement général provisoire pour 2:27. Le podium du jour est complété par le Brésilien Lucas Moraes à 18 secondes et la Saoudienne Dania Akil à 1:40.
NBA pour finir, le Thunder domine les Sixers.
Oklahoma City, leader de la conférence Ouest, a porté son bilan à 33 victoires et 6 défaites en s'imposant 118-102 à Philadelphie face à des Sixers diminués par les blessures du MVP 2023 Joel Embiid, mais aussi de Paul George et de Tyrese Maxey. Embiid n'a participé qu'à 13 rencontres cette saison à cause d'une entorse au pied. Le meneur canadien du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, a terminé avec 32 points, battu dimanche à domicile par les Pacers qui avaient mis fin à leur série de 12 succès consécutifs. Les Cavaliers ont pris leur revanche sur le parquet d'Indiana 127-117. De leur côté, le Canadien Jamal Murray et le Serbe Nikola Jokic ont mené les Nuggets de Denver à une victoire confortable contre les Mavericks 118-99 à Dallas. Murray a marqué 45 points. Jokic a réalisé un nouveau triple-double, 10 points, 14 rebonds et 10 passes décisives pour les Nuggets. Jokic, triple MVP, est devenu le joueur à accumuler 15 000 points, 7 500 rebonds et 5 000 passes décisives le plus rapidement possible en NBA en 709 matchs devant la légende Larry Bird qui était parvenu en 799 rencontres.
Page de sport VOA Afrique signé Yacouba Ouedraogo.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Soudan a récemment introduit de nouveaux billets de banque. L'objectif, selon les autorités, est de dévaloriser les fonds volés par les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide, et aussi de promouvoir l'inclusion financière. Les critiques pointent des difficultés d'accès au système financier pour une grande partie de la population. Suivons le récit de Nani Talani.
L'introduction de nouveaux billets de banque veut lutter contre l'inflation et assainir l'économie. Pour le ministre des Finances, Djibril Ibrahim, le but principal est de rendre inutilisables les fonds volés par certaines entités en obligeant les Soudanais à entrer dans le système bancaire.
L'échange de billets de banque a plusieurs objectifs, dont l'un est de s'assurer que l'argent volé accumulé par certaines entités n'a aucune valeur s'il entre dans le système bancaire. S'ils tentent de le faire, nous les découvrirons car nous demandons l'origine de l'argent s'il y a des soupçons. Par conséquent, il ne sera plus efficace après la fin du délai du processus d'échange.
La réforme vise aussi à encourager une meilleure inclusion financière, une modernisation du système financier, ainsi qu'un accès plus facile aux services bancaires.
Nous visons à ce que les échanges de billets de banque poussent les citoyens vers l'inclusion financière et les systèmes de paiement en ligne. Cela oblige les gens à ouvrir des comptes bancaires. Dieu merci, des centaines de milliers de citoyens ont ouvert des comptes bancaires.
Cependant, beaucoup de commerçants et de citoyens vivant dans des zones éloignées ou contrôlées par les forces paramilitaires ne disposent pas des documents nécessaires pour ouvrir un compte bancaire ou des téléphones leur permettant d'effectuer des paiements en ligne. Les pêcheurs et petits commerçants comme Ali Moneb expriment leur frustration face à la complexité du système.
Nous travaillons avec des pêcheurs dont les trois quarts n'ont pas de papier d'identité, ni de téléphone moderne pour utiliser les applications bancaires mobiles. Maintenant, tout notre capital est déposé à la banque. Lorsque vous aurez besoin d'argent liquide à l'avenir, ils ne vous en donneront pas. Vous pourriez passer une journée entière pour obtenir 50 000 ou 100 000 livres soudanaises.
Certains commerçants sont contraints de recourir à la vente en ligne pour compenser la baisse de leur activité. Amna Mahmoun est propriétaire d'un magasin.
Nous avons perdu nos clients qui achetaient en liquide à cause du changement de billets de banque. Sans nos ventes en ligne sur les médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, nos ventes auraient été nulles.
Le ministre des Finances, Djibril Ibrahim, a insisté sur l'importance de cette initiative pour aider à reconstruire une économie dévastée par les conflits. Dans le contexte de la guerre civile et de la dévaluation de la monnaie, cette réforme financière est un effort du gouvernement pour restaurer la confiance dans le système bancaire et limiter les flux d'argent illégal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le choix du président élu Donald Trump pour le poste de secrétaire à la défense, Pete Hegseth, s'est heurté mardi à la résistance des démocrates de la commission sénatoriale du service armé, mais les républicains l'ont défendu et dénoncé les attaques de leurs collègues démocrates. Khal Abab nous en fait le point, le récit est de Thierry Kaori.
Le vétéran et ancien présentateur de télévision, Pete Hegseth, s'appuie sur ses parcours atypiques pour démontrer son aptitude pour le poste de secrétaire à la défense des États-Unis.
Il est temps de confier la barre à quelqu'un qui a de la poussière sur ses bottes. Un agent du changement, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt direct pour certaines entreprises, certains programmes spécifiques ou des récits à prouver. Mon seul intérêt, c'est le combattant.
La plupart des candidats au poste de ministre de la Défense bénéficient d'un large soutien bipartisan. Ce n'est pas le cas de Hegseth. Le sénateur démocrate Jack Reed est membre du haut rang de la commission des forces armées du Sénat.
J'ai voté en faveur de tous vos prédécesseurs, y compris ceux de l'administration Trump. Malheureusement, vous n'avez pas la personnalité, le sang-froid et les compétences nécessaires pour occuper le poste de secrétaire à la Défense.
Monsieur Hegseth a été félicité par les Républicains qui estiment qu'un Pentagone axé sur la diversité, l'équité et l'inclusion a affaibli l'armée. Michael Waltz, Républicain.
I have no doubt.
Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va ramener le Pentagone à sa mission première, la préparation létale. C'est cet esprit guerrier que nos amis respecteront. C'est cet esprit guerrier que nos amis craindront. Et c'est cet esprit guerrier qui maintiendra la paix.
Les démocrates l'ont interrogé sur les allégations de mauvaise conduite et d'agression, ainsi que sur son manque d'expérience en matière de gestion. M. Hegseth a déclaré que la lutte contre le comportement agressif de la Chine demeurait une priorité absolue du Pentagone.
Nous travaillerons avec nos partenaires et alliés pour dissuader les Chinois communistes d'agresser l'Indo-Pacifique.
Démocrates et républicains ont pressé Hegseth sur ses récents écrits et commentaires contre les femmes au combat. Pete Hegseth, candidat au poste de secrétaire de la Défense.
Je dis tout simplement que nous ne devrions pas avoir de femmes dans les rôles de combat. Cela ne nous a pas rendus plus efficaces ni plus létaux, et cela a rendu les combats plus compliqués.
La sénatrice Joni Ernest, républicaine.
En tant que secrétaire à la Défense, soutiendrez-vous que les femmes continuent à avoir la possibilité de servir dans des rôles de combat?
Pete Hegseth, candidat au poste de secrétaire à la Défense.
Oui, les femmes auront accès à des rôles de combat au sol, à condition que les normes restent élevées.
Le Pentagone a écrit à VOA disant que les normes du service militaire n'ont pas été abaissées et que les unités de combat et les unités spécialisées maintiennent des critères stricts et rigoureux pour s'assurer que seules les personnes qualifiées sont sélectionnées, quel que soit leur sexe. Hegseth a besoin d'une majorité au Sénat pour être confirmé. 53 des 100 sénateurs américains sont républicains, mais on ne sait pas exactement comment chaque sénateur votera.
Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis à partir du 20 janvier. Les électeurs américains ont des attentes différentes pour leur prochain président. Le correspondant de la VOA, Scott Stern, nous en parle. Le récit est de Dilly Dico.
Dans l'État du Mississippi, au sud des États-Unis, les attentes à l'égard de la seconde présidence de Donald Trump sont mitigées. Bobby Joe Harrell a voté pour Trump.
J'aimerais qu'il prenne définitivement le contrôle de la frontière et de la situation des immigrés clandestins. Je suis tout à fait disposée à aider, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes enfants. Mais j'aimerais aussi que mes enfants et mes petits-enfants puissent profiter de l'Amérique dans laquelle j'ai grandi.
Angelo Meyer, un New York et transgenre, s'inquiète de l'avenir sous l'administration qui a exprimé son opposition aux soins de santé spécifiques à son genre.
Need to know. Investing in trans kids.
Les républicains qui nous regardent doivent savoir qu'investir dans les enfants transgenres est tout aussi important qu'investir dans leurs propres enfants, car nous sommes la prochaine génération qui va diriger ce pays. Et nous avons des idées brillantes, un avenir solide.
And we have bright ideas.
Sean Cushing souhaite que Trump se concentre sur l'économie.
Il suffit de s'en tenir aux promesses de campagne et de mettre fin aux taxes sur les pourboires, comme il l'a dit.
Jerry Hilton, dans le Mississippi, est d'accord pour dire que l'économie est la priorité absolue.
J'aimerais que le président Trump puisse à nouveau faire baisser le coût de la vie pour nous. J'en ai assez de vivre de paye en paye.
En Pennsylvanie, Samira Sherfawi s'inquiète de l'impact de Trump sur ses droits reproductifs et religieux.
Je pense que je perds mes droits de femme. Je pense que je perds mon droit à la religion parce que je vois qu'il veut mettre en avant uniquement le christianisme. Or, je pense que ce pays est ouvert à toutes les religions. J'ai l'impression que tout le monde devrait pouvoir apprendre la religion à l'école et pas seulement une seule.
Au Texas, Ross Barrera, qui soutient Trump, affirme que l'expérience en affaires du futur président aidera à redresser le pays.
Les gens sont fatigués. Ce que les gens veulent ici, c'est de l'emploi. Ils veulent une bonne économie, ils veulent une baisse de l'inflation, ils veulent la sécurité aux frontières, ils veulent du pétrole et du carburant.
La chose la plus importante que Trump puisse faire pour Yael Frosto, un électeur du Mississippi, est de présenter un programme clair.
Je voudrais qu'il soit direct sur les politiques qu'il va mettre en place dans le pays pour que nous sachions, tous les membres du Parti républicain et du Parti démocrate, ce qui nous attend ou non dans les quatre prochaines années.
Donald Trump prêtera serment en tant que président à Washington le 20 janvier.
Le 20 janvier 2025, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis et retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait perdu en 2020.
Suivez en direct sa prestation de serment sur toutes les plateformes de VOA Afrique.
Reportage, analyse et compte rendu en direct de nos reporters sur le terrain.
Ne ratez pas notre couverture complète à partir de 16h temps universel sur Facebook et à la radio.
À la télé, nous vous proposons une édition spéciale du Monde aujourd'hui de 19h30 à 20h temps universel.
L'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, c'est le 20 janvier 2025 sur VOA Afrique.
En Californie, de fortes rafales de vent menacent d'attiser les vastes incendies qui sévissent encore autour de Los Angeles. Le bilan s'est alourdi, passant à 25 morts. Le nombre de structures endommagées ou détruites est estimé à plus de 12 000. Je vous propose le témoignage de Kojovi Olympio, artiste plasticien d'origine togolaise. Il est joint par Alexandrine Olignon.
J'avais remarqué au début qu'il y avait beaucoup de fumée partout. Mais c'était à questionner, mais je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Et puis j'ai rencontré l'ami qui me parlait de l'incendie et comment elle avait déjà perdu l'électricité et tout. Quand j'avais appris, c'était le mardi soir, le mercredi, déjà les gens qui sont pas trop loin de moi, quelques kilomètres, avaient déjà commencé à évacuer. Mes amis, ils m'appelaient, il y en a qui avaient embarqué sans destination et déjà on voyait des fumées, tout le monde était paniqué et tout ça. Et puis je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai vu plus quoi.
Quelle a été votre réaction en apprenant que des amis autour de vous ont été touchés par les flammes?
Ouais, la réaction est que c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont arriver à contrôler cet incendie? Il y avait beaucoup de questions, quoi. Est-ce qu'ils ont des aides pour des gens qui n'ont nulle part à aller et tout ça, là.
Et vous-même, personnellement, vous n'avez pas été touché?
Non, personnellement, je n'ai pas été touché par l'incendie, mais déjà, chez moi, ma maison a été... mon appartement a été complètement couvert de poussière. On avait reçu le warning... que, you know, de s'apprêter, que ça devient grave et qu'on doit bouger. Donc, moi, tout de suite, on avait déjà commencé à s'embarquer. Mais j'avais eu de la chance parce que le feu était vraiment proche, mais à cause du vent, quoi. Ça nous a un peu raté.
Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que vous avez tout le nécessaire ou bien il y a des besoins?
Aujourd'hui, tout comme dans le temps de COVID, ils essaient de s'entraider et il y a de l'aide qui venait partout. Mais en même temps, il y a des gens qui profitent, you know, pour rentrer dans la maison des autres et voler. Il y a des gens même qui se déguisent en sorte de sapeurs-pompiers pour voler et tout, quoi, au lieu d'aider. Et il y a aussi des habitants qui commencent aussi leur incendie, leur propre incendie, et se jouent de la situation. Donc, c'est un peu compliqué, quoi.
Kojovi Olympio, témoin des incendies à Los Angeles. Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Aujourd'hui,
diffusée partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Al-Faïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur V.